Bonjour, bonsoir, c'est Manu et je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode de Radio Cassette. Dans chaque épisode de Radio Cassette, on vous raconte l'histoire d'un disque culte qui a marqué nos années 90. On se souvient de ces albums qui ont bercé notre adolescence, on replonge à corps perdu au cœur de cette décennie pas comme les autres, où Séverine Ferrer, Charlie et Lulu règnent en maître. Dans cet épisode, on va vous parler de 5 petites anglaises, 5 nadas incroyables et culottées qui ont tout cassé en 97 avec un premier album calibré pour partir à l'assaut de la planète et remplir les tiroirs-caisses. On va vous parler de Baby, Posh, Sporty, Scary et Ginger, aka les Spice Girls et leur premier album Spice. Il contient des énormes hits comme Who Do You Think You Are, To Become One, Say You'll Be There et bien sûr Wannabe. Un des plus grands tubes des 90s qu'on considère encore aujourd'hui comme un hymne féministe iconique au niveau mondial. Les Spice Girls, on en parle tout de suite maintenant avec 4 meufs trop fraîches. Olivia.
Salut Manu.
Fanny.
Hello.
Et nous accueillons pour l'occasion une invitée exceptionnelle, Leila du label Mukashi Mukashi.
Salut Manu.
Salut Leila, c'est trop cool que tu sois là.
Merci à toi.
Leila, qui est la créatrice des podcasts Bromance, L'École du Pad et Culture Miam.
Pour le Entre autres, oui.
Et c'est trop cool que tu sois là parce que vous savez que c'est grâce à elle que j'ai enregistré la première bande-annonce de Radio Cassette. C'était chez elle, alors applaudissements.
Big up.
Et nous accueillons également pour cet épisode vraiment très spécial une star internationale. C'est une figure incontournable de la bande dessinée. Sa vie est tout à fait fascinante. Elle est blogueuse, engagée et culottée, comme ses portraits de femmes héroïques publiés dans 20 pays. C'est une des personnalités françaises les plus influentes dans le monde aujourd'hui, Madame Pénélope Bagieux.
Quel accueil.
Parce que tu le vaux bien. C'est un immense plaisir de t'avoir sur Radio Cassette parce que je sais que t'es bien occupé en ce moment. On a adoré, nous, ta BD culottée, comme un demi-million de lecteurs. Et on partage avec toi une passion commune pour les Spice Girls, je crois.
C'est vrai.
Donc ça tombe bien, ça va être le sujet de ce soir. Alors c'est parti, on va commencer par se réécouter l'album en mode Fast and Furious. Attention, ça va très vite. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. I'm giving you everything, all that joy can bring. This I swear, I'll give you everything. And all that I want from you is a promise you will be there. Say we'll be there. I need some love like I never needed love before. Voilà pour les 10 titres de Spice.
C'est trop bien.
Ça fait plaisir. Hein.
Alors, c'est le premier album des Spice Girls. Les mecs se sont pas foulés sur le titre. Ils auraient pu très bien s'appeler Girls, par exemple. Mais ils ont choisi Spice. Il sort le 19 septembre 96 en compact disque, cassette, vinyle sur le label Virgin chez EMI. C'est un immense succès commercial. On parle même de Spice Mania, 30 ans après la Beatles Mania. Je ne sais pas si vous connaissez les Beatles, c'est un boys band british.
Ça ne me dit rien.
Et de toute l'histoire de la musique, c'est à ce jour le groupe qui a vendu le plus de produits dérivés. C'est complètement dingue. Alors, quand les Spice Girls débarquent en 96, on est encore en pleine vague Britpop au Royaume-Uni. C'est la grande époque de Oasis, de Blur, etc. Et les Spice Girls, elles, s'inscrivent dans un renouveau pop avec des chansons super légères, assez éloignées finalement des auteurs-compositeurs qui cartonnent. 96, c'est aussi l'apparition des films catastrophes avec Twister, Independence Day et Daylight.
Oh là là, je me sens vieille.
Et Bill Clinton est réélu président des États-Unis. La France, elle remporte la Coupe Davis et on passe au numéro de téléphone à 10 chiffres. Alors, on va commencer par se faire un petit tour de table. Vos souvenirs, les Spice Girls, on va commencer par toi, Pénélope.
À l'époque, tu veux dire ?
Ouais. De ça ?
Moi, j'étais partie en voyage scolaire chez ma correspondante anglaise, en plein pic des Spice Girls. Donc, j'étais un peu sur la terre promise des Spice Girls. Donc, en termes de merch et de produits dérivés, c'était la folie. Même si j'avais un budget d'élève de quatrième. Et c'était fou. Ça ressemblait à rien de ce qui existait. Et en plus, on ne pouvait pas prédire que 25 ans après. Voilà, en soirée avec mes amis, on se battrait toujours pour savoir qui fait quelle Spice Girl quand on l'a.
C'est ma chanson.
C'est la première question qu'on s'est posée pour préparer cette émission.
C'est qui est qui?
Qui
est Victoria? Qui ne chante pas?
Bah alors, toi, du coup, t'étais qui?
Jerry, bien sûr.
Ah bah oui.
Moi aussi, j'étais Jerry. Même la plus cool. C'était la meilleure. Jerry, en plus, elle s'était fait un costume avec un torchon à thé.
Ah ouais?
Là, c'est la robe cool. Union Jack.
Carrément.
Et elle en a fait une robe, donc en plus, elle avait un petit côté un peu arty, un peu DIY. Surtout, elle était trop belle, elle était trop cool.
Puis elle avait du caractère.
Ouais.
Moi, j'aimais bien, c'était un peu la chef.
T'étais qui, toi, Olivia?
Moi, j'étais carrément Jerry aussi.
Ah ouais?
Ah bah, tellement. Ouais. Tellement Jerry.
Moi j'étais Melby parce que
toi t'étais un petit
c'est
peu wild.
Celle qui ressemblait le plus physiquement.
Ah oui là c'est.
Et toi Leïla t'étais.
J'étais aussi Melby. Ouais.
Ah ouais. Mais
c'est les cheveux je m'en souviens un truc dans les cheveux.
Et Manu toi?
Moi j'étais pas une Spice Girl. je serais peut-être Simon Fuller, on va en parler après qui est un peu
manager,
derrière.
Ouais.
Le manager. Mais bah du coup merci Pénélope. Et toi Leïla ça t'évoque quoi comme souvenir?
Bah moi oui ado, enfin jeune fille ado et en fait. Je me souviens que c'était la période des boys band. Donc moi, j'avais mes copines qui étaient à fond, qui avaient tous les posters. Et moi, je détestais ça. Vraiment, j'ai jamais accroché sur les boys band. Et en fait, quand c'est arrivé, ça a été une sorte de bouffée d'oxygène. Et je me suis dit, oui, c'est ça que je veux. Vraiment, je pense qu'il s'est passé ça dans mon cerveau. Je me suis dit, ah bah oui, c'était ça en fait que je voulais. Et du coup, bah, en fait, moi, j'ai adoré le premier album. Et en fait, je me suis arrêtée là.
Comme beaucoup. Hein,
comme beaucoup, en fait. Ouais, et mais c'est très bien aussi. Et donc voilà, donc, je suis très contente d'être là et pour en parler.
C'est cool.
Parce qu'il est toujours important pour moi, en fait, cet album. Donc, je t'avais déjà dit ça, Manu.
Ouais, ouais, bon, ça, on en reparlera après. Et toi, Fanny, alors, du coup?
Moi, j'étais hyper fan. J'étais en fin d'école primaire. Et je me rappelle évidemment dans la cour de récré avec les copines, c'était chacune était une Spice Girls attitrée. Et j'avais la cassette que j'ai apportée aujourd'hui.
Oh,
et
wow.
En fait, pour moi, le gros gros souvenir associé aux Spice Girls, c'était une collection de cartes.
Mais tout à fait.
En fait, j'ai oui. Voilà, l'année 96, c'est l'année où en fait tout mon argent de poche, j'ai arrêté d'acheter des bons becs et des pains au chocolat après l'école. Et j'allais au marchand de journaux acheter des paquets de 5 cartes Spice Girls.
Ouais, pareil.
Et on faisait la collection et après on s'échangeait celle qu'on avait en double. Le but c'était d'en avoir plus. Voilà, et j'en ai apporté une là que je suis en train de montrer à tout le monde et c'est une photo de Victoria en mode alerte à Malibu.
Ah, mais carrément.
Et c'est la seule carte rescapée de cette collection. Je sais pas où est passé le reste, mais je rangeais tout méticuleusement dans des albums photos.
Je m'en souviens. Voilà. Et t'as ramené, je vois, les trucs de Star Club et là ça me touche énormément.
Paroles.
Là, c'est.
J'ai retrouvé ça dans mes petits souvenirs d'époque.
Ah, c'est énorme. Et toi, Oli, c'était quel souvenir ?
Eh ben, écoute, pareil, comme toi, Leïla, pour moi, ça a été aussi... J'étais pas très boys band, j'étais un peu en retrait, mais soudain, quand elles sont arrivées, j'en étais, quoi. C'était mon groupe. Et surtout, on avait des gros, gros débats philosophiques dans la cour. Non, mais les Spice Girls, c'est pas du préfabriqué. Elles ont vraiment une âme, tu vois.
On les défendait.
Ah, on les défendait comme des folles. Et moi, je m'étais acheté une paire de Buffalo Shoes, les plateformes shoes orange curry. Ma mère, elle devenait folle. Elle se demandait ce que j'allais en faire. Je les ai un petit peu portées, mais pas beaucoup, parce que j'avoue que je les assumais pas à fond non plus. Mais j'avais vraiment l'impression que j'étais une Spice Girl quand je les mettais, quoi.
Et tu les as ramenées ce soir ?
Non, pas du tout.
C'est mortel.
Mais alors, et toi
Manu, quand même.
Moi, c'était le Hit Machine, en fait. Je me souviens de les avoir découverts là-dedans. Oui. Je me souviens surtout que les nanas étaient incroyables, avaient plutôt des personnalités très fortes. Déjà, je trouvais ça assez impressionnant. Notamment Victoria Beckham, tout en cuir dans le clip de Say You Bizarre.
Ah, c'était pas encore Beckham à l'époque.
Non, c'était Victoria Adams. Et elle était incroyable. Moi, j'avais enregistré le clip sur VHS. Je me le repassais de temps en temps.
C'est marrant parce que dans le documentaire, il disait que c'est à partir de ce moment-là que les garçons
se sont intéressés.
C'est Hubert qui se sont intéressés.
Je suis désolé, je suis qu'un énorme cliché. J'ai pas grand-chose d'intéressant
à compter. Tu te l'as repassé quand t'étais tout seul ou accompagné? Est-ce que tu nous parles des débuts de
les premiers émois adolescents
par hasard?
C'était une très belle femme. Je vous en dirai pas plus. En tout cas, elle m'a beaucoup marqué. Donc j'étais à l'époque aussi fan de Noir Désir, mais ça m'empêchait pas d'écouter les Spice Girls en cachette. Voilà. On va maintenant vous raconter l'histoire des Spice Girls, le girl band le plus célèbre du monde. Moi, j'aime bien cette histoire. Elle commence comme un conte de fées. Elle commence par une petite annonce qui paraît dans le journal anglais The Stage en 1994. Et au départ, il y a une longue file d'attente sur le trottoir de Balderton Street de filles qui se bousculent pour décrocher un rôle dans le premier girl band. C'est ça, Olivia ?
Alors, c'est tout à fait ça, mon cher Manu. Donc, on est à l'hiver 94. Une petite annonce est postée dans le magazine professionnel The Stage. Recherche, 2 points. Vous avez entre 18 et 23 ans et vous savez chanter, danser. Vous êtes débrouillarde, extravertie, ambitieuse et dure à la tâche. L'entreprise de management musical à succès Heart Management forme un groupe pop entièrement féminin avec chorégraphie en vue d'obtenir un contrat avec une maison de disques. Audition ouverte. Dancework, 16 Balderton Street, vendredi 4 mars, 11h-17h30. Amenez, s'il vous plaît, vos propres partitions ou cassettes. Ça annonce quelque chose de bien, déjà. Donc, comme tu le dis, file d'attente de ouf devant le trottoir. L'idée donc de Heart Management, c'est un groupe 100% féminin, une sorte de réponse au succès rencontré par les boys bands.
Parce qu'à l'époque, du coup, les boys bands, t'en as 1 million. En Angleterre, quoi, t'as quoi ? T'as Texas, t'as E17. En France, ensuite, t'as Twizy, Alliage, les Squad.
Et effectivement, les mecs de Heart Management, ils l'ont bien compris. Pour eux, si on crée un groupe de filles à la fois culottées pour plaire aux femmes et sexy pour attirer les garçons, eh ben, on va pouvoir doubler l'audience et tout ce qui va avec. Donc, c'est avec une idée déjà très précise qu'ils vont créer ce groupe. Ils imaginent une formation 5 membres, comme l'était exact, pour éviter que se forment 2 clans rivaux, on va dire. Donc, 400 jeunes femmes se présentent à l'audition du 4 mars 94. 5 filles sont retenues. Et à l'époque, le groupe va s'appeler Touch. Donc, il y a Victoria Adams, 19 ans, Melanie Brown, 18 ans, Melanie Chisholm, 20 ans, Jerry Halliwell, 21 ans, et Michelle Stephenson, 19 ans.
C'est qui celle-là ?
Ah bah voilà, c'est qui celle-là ? Eh bien, c'est la fille qui se mord les doigts de s'être engueulée avec le reste du groupe, parce que très vite, elle est remplacée par Abigail Kiss, un nom qui ne vous dit rien non plus.
Ouais, c'est qui celle-là ?
Eh ben, quelques semaines après, elle quitte la colocation. Pourquoi ? Pour retrouver son mec. Bah, j'espère qu'il en valait le coup un peu quand
c'est
même.
Putain, c'est pas de bol. Ça me fait penser à l'histoire du 5e Beatles.
Ah ouais,
pareil. Quoi.
Le mec, pareil, il doit bien regretter.
Le seum, ça s'appelle.
Donc, juillet 94, Emma Bunton fait donc son apparition comme 5e membre de Touch. Les 5 filles, 5 profils facilement marketables, la sportive, la piquante, la sophistiquée, la métisse wild et la femme enfant. C'est vraiment une idée de génie là. Hein. Toutes les petites filles vont vraiment chercher à les ressembler. Donc là, on a fait le tour de table de Jerry, de Melby. Donc les filles commencent les répétitions et c'est assez inégal au niveau du chant et des prestations, n'est-ce pas Victoria qui ne chantait pas beaucoup. Je crois qu'on a un petit extrait à écouter, mon cher Manu, d'une répétition des tout débuts des Spice Girls. So,
you could be my half.
Doesn't sound a bit heavy.
Celle qui parle le plus, c'est Mary. Hein. Et celle qui chante bien, c'est Mel C.
Everything that you do, I want you. No, I need you. Everything about you.
Ça fait un peu Sister Act.
On reconnaît vraiment la voix de chacune.
Ouais, ouais. C'est vrai, hein. C'est fou. Fort.
D'ailleurs, on reconnaît bien pas la voix de Victoria.
On n'entend pas.
Donc, ce qui les caractérise, c'est quand même une énorme volonté de réussir et de devenir célèbre. Il va falloir s'accrocher parce que Heart Management ne leur fait signer aucun contrat et très vite va leur faire comprendre qu'elles sont vite remplaçables. On l'a bien vu, les deux premières, boum! On n'en a plus jamais entendu parler. Donc, un rapport de force se met un petit peu en place entre Chris Herbert, le manager, et la meneuse de la bande, Wouhou, Jerry. Les filles trouvent que ça avance pas très vite. Elles sont un peu impatientes. Donc, elles vont obtenir l'organisation d'une audition pour la fin de l'année 94 afin de présenter leur premier morceau et tenter d'attirer des nouveaux compositeurs. Et là, ça fonctionne puisque le duo Richard Stannard et Matt Rowe, qui écrivent déjà pour les East 17, sont convaincus du potentiel du groupe et vont très vite commencer à écrire pour celles qui déjà s'appellent les Spice Girls. Les choses s'accélèrent. Mars 95, la rupture est consommée avec Heart Management, donc les tout premiers managers, et les filles vont recruter un nouveau manager dont on va entendre parler un peu plus tard, Simon Fuller.
Simon Fuller.
Tout Fuller. Il y a deux écoles. En juillet, elles signent chez Virgin et pour se faire connaître, elles ont débarqué à l'improviste dans tous les bureaux de l'industrie musicale de la place de Londres, Jerry n'hésitant pas à faire des photocopies de ses seins pour montrer aux absents ce qu'ils ont raté.
Allez, ah, that's my girl.
Moi, j'adore cette fille. On y trouve donc tous les éléments qui vont faire le succès des Spice Girls. La solidarité entre les filles, l'affirmation de soi, l'insouciance, la rencontre entre le rap et la pop, la légèreté, l'humour. Et c'est vraiment Wannabe qui va faire le déclic, ça va créer leur identité. Elles vont devenir ce que la chanson affirme, un groupe de copines qui s'éclate et qui fera toujours passer ses potes avant son mec. Comme l'écrira Jerry plus tard, on s'est marré en le faisant, c'était nous. Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne nous comprenez pas. D'ailleurs, quand vient le choix du premier single pour l'album Spice, au début de l'année 96, Wannabe est évident pour Jerry et Mel B, moins pour Virgin qui, eux, préfèrent Say You'll Be There. Le groupe s'entête et la maison de disques fait remixer le morceau plusieurs fois jusqu'à arriver à cette version pop hyper accrocheuse. Avant même la sortie de Spice en Angleterre à l'automne 96, Virgin veut installer l'image du groupe au succès international. Le disque sort d'abord au Japon, pays très sensible au phénomène pop, et c'est de là-bas que, en fait, et c'est là-bas que les filles interprètent pour la première fois Wannabe en live pour l'émission culte Top of the Pops. Et ça va vraiment être décisif parce que c'est grâce à cette émission qu'elles vont avoir leur petit nom, à savoir Scary Spice, Sporty Spice, Baby Spice, Ginger Spice et Posh Spice.
Exactement, c'était un journaliste trop feignant de retenir leur prénom sur cette émission. Il dit bon, Mel, Jerry, c'est quoi ça? Ok, alors toi, ça va être Baby, toi, ça va être Posh. Puis bah, il a plié ça en deux.
Ça a fonctionné, hein. Ouais. Donc, 8 juillet 96, Wannabe sort au Royaume-Uni. Il faut quand même attendre deux semaines avant que le single se hisse en tête des charts, devançant, figurez-vous, Michael Jackson, George Michael et Robbie Williams.
Pas mal.
Et tout l'été, ça va être un gros carton numéro 1. Vraiment, ça va être la chanson de l'année. Le morceau sort aux États-Unis 1er janvier 97. Il prend directement la 11e place du Billboard Hot 100. Et exploit qui n'avait pas été réalisé depuis très très longtemps, puisque les précédents, c'était les Beatles avec « I want to hold your hand ». La prestation des Spice Girls dans la mythique émission Saturday Night Live du 12 avril 1997 est suivie par, figurez-vous, 20 millions d'Américains. C'est
Alors,
énorme.
C'est marrant, je l'ai revu, ce passage télé.
Ouais.
En fait, elles sont accompagnées du groupe de l'époque parce que c'est un petit peu comme d'autres émissions américaines où tu as vraiment le backing band qui est là avec une base rock. Et du coup, c'est la première fois que tu vois ce morceau, mais avec une vraie basse, guitare, batterie. Et ça envoie pas mal. On voit
musiciens.
Le côté. Ouais, avec des musiciens. Mais là, on sent vraiment le côté un peu rock du truc, tu vois, un peu punk limite.
Donc finalement, 7 millions d'exemplaires de singles plus tard, c'est quand même énorme. C'est les plus grosses ventes mondiales de l'histoire pour un morceau signé par un groupe de filles.
Girl power.
Et je pense que vraiment, si les Spice Girls ont révolutionné la pop, c'est grâce à leur créativité. Ça, c'est, je le défendais déjà quand j'avais 11 ans. Hein. Je suis restée sur cette ligne.
J'ai compris tout de suite.
Ouais, tout de suite, j'avais vraiment perçu le truc. Le génie marketing, évidemment, ça, je l'avais peut-être un peu moins perçu à l'époque.
Moi, j'ai acheté toutes leurs cartes, alors si.
En tout cas, jamais autant les ados s'étaient identifiés à ce point à un groupe. Et je crois d'ailleurs, Manu, que tu as un petit extrait de l'émission Fan 2 de l'époque à nous faire écouter.
Leur première télé le 21 septembre 96, Hit Machine provoque l'hystérie auprès du public. On découvre alors l'énergie du groupe. Les Spice Girls sont encore disponibles, elles acceptent toutes les interviews. Personne ne peut échapper à leur poussée, la presse du monde entier s'en empare, le phénomène Spice Girl est né.
Je pense que la rapidité de notre succès est le vrai reflet de notre époque. Les gens sont affamés et veulent les choses tout de suite. Ils sautent très vite d'un succès à un autre. Un jour ce sera les Tortues Ninja, puis un autre jour tout le monde sautera sur Gucci. Ils s'en font une overdose et en veulent toujours plus, autant qu'ils puissent en supporter. Et c'est, je crois, la raison pour laquelle nous sommes les Spice Girls.
Le deuxième single, Say You'll Be There, est disque de platine en 5 jours, soit 600 000 disques vendus.
Waouh, non, c'est dingue la manière dont elles explosent. Vraiment, tu les vois partout. En France, elles passent même chez Jacques Martin. C'est génial.
Consécration suprême.
Carrément. Ouais. 97, c'est une année complètement what the fuck pour les Spice Girls. L'autre jour, j'ai appelé ma copine Béatrice, qui est anglaise, pour qu'elle me raconte, elle, comment c'était les Spice Girls à l'époque. Béatrice, c'est elle qui a dessiné le logo de Radio Cassette. Elle est graphiste le jour et graffeuse la nuit. En 98, elle était là pour la toute première tournée des Spice Girls. Alors pour Béa, les Spice Girls, c'est un peu un groupe mythique, quoi.
Ça reste un guilty pleasure pour moi parce que ça a vraiment été une grosse obsession musicale, quoi. Et puis en plus, ça a été mon premier vrai concert. J'habitais à Rome à l'époque, donc on est en 98. Et un jour, avec ma meilleure amie, on avait réussi à avoir des places pour aller les voir au Palaeo. Donc en gros, c'est la grosse salle de Rome, tout le concert. Puis imaginez, on avait chanté, dansé, on était complètement omnibulés, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la première tournée, donc elles avaient quand même sorti deux albums quand la tournée a commencé. Et la tournée, donc c'est une tournée mondiale, 97 dates en tout, donc c'était 56 en Europe, 41 aux US, 2 millions de fans, et tu vois, genre bah, un truc de malade, genre à New York par exemple, elles avaient joué au Madison Square, c'était 20 000 billets qui avaient été vendus en 12 minutes, tu vois.
Ah si, si, je vois. Les nanas qui campent pour être les prums à l'ouverture et qui chantent « Wannabe » 50 fois dans le froid pour se donner du courage. Au secours.
Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Donc tu vois, moi, récemment, j'ai peut-être acheté des billets pour Céline Dion, peut-être. Et j'étais comme une ouf devant mon ordinateur pendant des plombes. Mais là, c'était vraiment, t'étais devant le Virgin ou devant la Fnac et tu campais, quoi. Ouais, c'était... Ouais.
Clairement.
C'était pour placer Céline Dion. Vous savez que j'ai une infection particulière.
Bah, le dernier concert, il s'était fait à Londres, assez logiquement, au stade de Wembley, qui est encore plus grand que... c'est un stade, tu vois, donc c'est vraiment immense. Et alors là, elles étaient à 4, parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais donc Jerry avait quitté le groupe pendant la partie américaine de la tournée.
Et ouais, Jerry Halliwell quitte les Spice Girls. Trop dur, le groupe est devenu un truc monstrueux, elle se prend la tête avec Mel B. Il paraît même qu'elles auraient fait zig-zag à toutes les deux.
Mais bon, elles ont quand même fait le concert, évidemment, mais c'est sûr que c'était quand même un gros truc, quoi. C'était une grosse bombe à l'époque, qu'elles soient que quatre. Mais donc le concert, a priori, c'était super bien passé, même à quatre, etc. Elles avaient remplacé les paroles, enfin, tu vois, c'était redistribuer les rôles. Ce qui était vraiment innovateur, c'est que ça avait été filmé et diffusé, donc je cite, on dit en live, pay-per-view, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une émission en direct où tu payes, donc c'est une chaîne privée, et ça te permet de voir le concert en direct. Tu vois, mais il faut payer quand même pour ça. Et puis après, tu pouvais acheter la VHS deux mois plus tard, et puis ils l'ont sorti en DVD 10 ans plus tard.
Eh ouais, c'est un malin, Simon Fuller. Il transforme les girls en machines à vendre tout et n'importe quoi. Il en fait la plus grosse licence du monde de la musique. Alors il y a les chewing-gums, les choupa-choups, les fringues et les Space Polaroid. Plus étonnant, il y a les Space déodorants aux agrumes et Cherry on the Cake.
Tu avais les chips Walkers, qui en Angleterre, c'est vraiment genre la marque par excellence. Elles avaient carrément lancé une saveur fromage et ciboulette.
Mais le plus gros coup marketing de Simon Fuller, c'est la tournée Pepsi.
Il y a Pepsi, tu vois, pour qui elles avaient écrit une chanson qui s'appelait Move Over Generation Next. Donc en gros, Pepsi avait carrément sponsorisé la tournée mondiale, tu vois. Et pendant le concert, donc au milieu de leur chanson à elle, il y avait la chanson Move Away qui était jouée avec le clip qui, tu te doutes, était rempli de placements produits.
Pepsi, évidemment. En fait, on peut carrément aller au supermarché et remplir son caddie uniquement avec des produits Spice Girls. Ça va vraiment trop loin. Et quand tu arrives à la caisse, eh ben, on fait le bilan.
Ouais, à peu près un an et demi, deux ans après la sortie d'album. On parle de près de 100 partenariats, licences de marque avec les Spice Girls et près de 300 millions de bénéfices en merchandising.
Et ouais, les Spice Girls, elles ont bâti en quelques mois un empire. Ok, c'est intéressant, mais il y a un truc que Béatrice ne nous a pas encore raconté. C'est un jour, elle a carrément rencontré les Spice Girls.
Qui a été le plus beau jour de ma vie.
Oh yeah.
La rencontre avec les Spice Girls. Ouais, ouais, c'est vrai que je les ai rencontrées, j'ai eu cette chance. C'était fou, quoi. Enfin, tu peux imaginer, t'as 12 ans, t'es archi fan. Et t'arrives à les voir en personne, en chair et en os. Enfin, un truc de malade. Ce qui s'était passé, en fait, c'est que ma mère avait une pote qui bossait, qui était productrice sur une émission de télé où l'Espace faisait la promo autour de la tournée, enfin, du concert, en l'occurrence, où j'avais été. Donc, j'étais allée à l'émission et puis j'avais réussi à avoir 15 minutes backstage, tu vois. Je les oublierai jamais, c'était génial, elles avaient été super sympas.
Toutes te font des gros bisous et des gros câlins, sauf une.
Posh Spice avait été la seule qui m'avait serré la main. Enfin, tu te rends compte, genre, serré la main à une fan de 12 ans. Elle avait vraiment gardé son rôle, tu vois. C'était préféré. Je n'ai jamais trop compris pourquoi. Enfin, quoique, avec du recul, je me dis, il doit y avoir un lien avec David Beckham, parce que j'étais obsédée avec David Beckham aussi. Et bon, je peux te dire qu'après la rencontre, j'ai changé de favorite Spice Girls, parce que c'est hyper important qu'elle est ta favorite. Et Mel C a pris sa place. Et là, tout est rentré dans l'ordre. Donc voilà.
Voilà, c'était la séquence fan 2 de Béatrice. Ça doit être trop cool quand même de rencontrer son idole.
Chance. Oh là là, le rêve de toutes les petites filles, je pense, de l'époque, quoi. Moi, j'avais pas pu aller les voir. Hein. Mais j'avais un peu essayé auprès de ma mère, mais elle avait un petit peu.
Ouais, moi non plus, pareil. Ouais.
On va revenir maintenant sur le making of du disque. Alors, résumé des épisodes précédents. Tout à l'heure, Olivia nous a raconté les débuts rocambolesques. Alors, il y avait le casting, le groupe Touch, la coloc entre meufs. Il y avait aussi les cours de chant, Earth Management, le hold-up avec la cassette. Et à ce moment de l'histoire, les Spice Girls ont un concept, de l'ambition, mais aucune chanson. Il va falloir maintenant fabriquer un album, sauf qu'elles n'y connaissent rien. Et il n'y en a pas une seule qui soit musicienne.
Coucou Victoria.
Tout à fait, non, Manu, c'est à moi, c'est ça ?
C'est ça.
Alors oui, soyons honnêtes, alors elles étaient tout à fait conscientes qu'elles n'étaient pas musiciennes, ni compositrices ou autrices de chansons. Mais il fallait aussi qu'elles travaillent le chant donc pour Victoria, et Jerry, c'était la danse qui apparemment dansait encore plus mal que la mère de Mel B. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle lui a dit.
Anecdote de ouf.
Voilà, donc dès le départ, elles ont compris que pour réussir à créer un bon album, elles ne pouvaient compter que sur leur débrouillardise et surtout chercher les meilleurs producteurs, auteurs et compositeurs d'Angleterre. Et trois rencontres vont être décisives pour elle et pour cet album. Donc la première, c'est celle de Elliot Kennedy, qui a composé donc, pour le boy band Texat. Et anecdote amusante, le rendez-vous était déjà arrangé par Heart Management, donc l'ancienne maison de disques. Mais une fois qu'elles ont dit goodbye à leur manager, elles volent les bandes et filent à l'anglaise directement voir Elliot Kennedy à Sheffield, parce qu'elles savaient qu'il habitait là. Mais c'était la seule info qu'elles avaient.
C'est vraiment des loupards, hein.
Ah, ouais. Le processus de création est rapide. Elliot propose des ambiances et les cinq filles donc improvisent autour. Elles vont composer avec lui Say You Be There en 10 minutes seulement.
Oh là là, c'est le dingue. Talent.
Autre rencontre décisive, les auteurs Matt Rowe et Richard Stannard. Alors on dit Rowe ou Rowe?
Rowe. Moi je dis Rowe.
Ouais, j'ai l'impression que de toute façon aucun nom vont être bien prononcé aujourd'hui. Donc
eux, ils ont composé notamment Steam de East 17. Ça fonctionne bien. Grâce à eux, donc ils composent Wannabe, To Become One. Et d'ailleurs, To Become One a été inspiré de la relation qu'il y a eu entre Jerry et Matt Rowe. Au cours de cette session.
Tu veux dire qu'elle a aussi fait zigazig avec lui ?
Tout à fait, tout à fait.
Quelle coutume.
Et enfin, le duo auteur-compositeur et producteur Paul Wilson et Andy Watkins, plus connus sous le nom de Absolute, donc troisième rencontre. Ils viennent de Bristol, ils ont remixé quelques bons tracks de rappeurs comme Biz Markie et des groupes indés comme Everything But The Girl, qui auraient aussi inspiré Massive Attack, donc c'est pas n'importe qui ces mecs-là. Ils vont produire quelques-unes des meilleures chansons de l'album, selon moi. Et surtout, ce duo va présenter les filles au manager Simon Fuller. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été super important. Mais revenons un peu sur Wannabe. Je vous propose de revenir sur cette chanson. C'est l'un des plus gros tubes des années 90 quand même. Et saviez-vous que selon une étude menée en 2014 par un chercheur qui s'appelle James Burgoyne, un musicologue spécialiste de l'analyse des données musicales de l'université d'Amsterdam, donc c'est pas n'importe qui. Et donc selon son étude, Wannabe est la chanson la plus accrocheuse de l'histoire. Les gens la reconnaissent au bout de 2,3 secondes en moyenne.
Moi, je vais plus vite que ça. Hein.
Alors, est-ce que vous êtes prêtes, les filles ?
Yes, oui. Fait.
Ouais. C'est le rire. En
ouais,
fait.
C'est le rire.
Ouais. Normalement, on n'entendait pas.
Ouais. C'est oui, c'est
début. Avant qu'elle rie, on n'entendait pas.
Tout ouais.
Et
ouais.
Les vrais savent que c'est.
Les vrais c'est savent.
C'est vrai. C'est vrai.
2 secondes et 3 dixièmes. On a juste mis l'intro et on a tout de suite reconnu le rire de Melby. Donc, évidemment, c'est un titre de single parfait pour les Spice Girls, puisqu'elles prennent chacune à leur tour la parole, en fait, comme si elles se présentaient finalement à leurs fans, à leur public, à l'audience, je ne sais pas. Un petit extrait. If you want my future, forget my past. Ça, c'est Mel C.
Ouais.
If you wanna get with me,
Emma.
Better make it fast. Now don't go wasting. Melby.
Ah. Precious time. T'aurais dû savoir, toi. Get your act
together. Jerry,
could be just fine.
I'll tell you what I want, what I really, really want. Maybe. So tell me what you want, Jay. What you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig and zig. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is.
Voilà. Elle est vraiment cool cette version a cappella. Moi je crois que je la préfère, je crois.
Rabat-joie.
Ouais.
Non, elle chante en fait.
Pas
Sophie Victoria. Et oui, parce que donc les paroles, j'ai une explication. Les paroles Wannabe ont été composées donc en moins d'une heure pendant un week-end en l'absence de Victoria qui elle était partie à un mariage.
Madame.
Voilà, donc elle était occupée. Par contre, voilà, elle essayait de suivre à distance et elle envoyait des petits SMS histoire de contribuer. Mais bon, voilà.
Il y avait des SMS à l'époque. Ouais, 96.
Oui, des tam-tam. Hein,
des tam-tam.
Et puis surtout, même si elle n'était pas là, c'est ça son excuse pour avoir jamais chanté sur tout l'album. C'est parce qu'elle était en... C'est quand même léger.
Ça clash.
Bonne excuse. En fait, elle n'était jamais là. Elle a toujours un truc à faire.
Beaucoup de mariages. Hein. Énormément de mariages.
Une grosse, grosse vie sociale, Victoria.
C'est ça. Même si la chanson a été écrite très vite, il y a eu de longues discussions entre elle et les auteurs. En tout cas, elle voulait écrire une chanson sur les relations amoureuses, mais qui sortait de l'ordinaire et qui enverrait un nouveau message. Parce qu'en vrai, avec les boys band et tout, il y avait plein de chansons. Donc, comment faire autre chose ? Et pendant la composition, la chanson est devenue finalement un hymne du groupe qui a fini par leur ressembler. Mais c'est ce que tu dis aussi, Olivia. Mmh. C'est vraiment, ça rassemble en fait toutes les composantes, toutes les personnalités et tout le message du Girl Power derrière et l'indescriptible sororité qui les anime. Et parlons enfin du mystère Zig Zig A. Donc à votre avis, ça veut dire quoi ?
Bah, c'est Zizi Pampan ou Crack Boom U ou quelque chose comme ça, quoi. C'est une espèce de...
Mais tu sors de quelle époque, Manu Minel ?
En 1950.
Formidable, sans sas.
Oui, donc...
Non, mais c'est
d'accord, c'est ça. Oui, c'est ça. On est tous d'accord que ça parle voilà, de relations plus intimes entre filles, garçons, filles, voilà. Pas d'autres commentaires ?
Non. À l'époque, je n'avais pas forcément bien compris, moi, du haut.
Moi non
mais...
plus, mais bon. Ouais,
c'est comme To Become One, quand j'ai compris, ça a été mais, l'éclairage.
Le
quoi.
Choc.
Oh, 2 devient 1.
C'est comme le site Carrefour.
Voilà, c'est ça.
Difficile donc de classer l'album des Spice Girls. Il y a pas mal d'influences en fait dans cet album. Il y a notamment du hip-hop dans If You Can Dance, qui en fait, il y a un sample de Digital Underground. On entend aussi clairement du G-Funk dans See You Be There. On sent un peu la Californie, la chaleur et tout.
Mmh, c'est vrai.
Et la voiture qui fait bang bang.
Il manque plus que Snoop Dogg à
voilà,
l'arrière.
Voilà, c'est ça. Avec
un gros pétardo, ouais, voilà. C'est réglé.
On y est, on y croit. Il a sûrement écouté dans sa voiture d'ailleurs, Snoop. Et du R&B et du funk, avec bah, grâce en fait au titre qui a été composé par le duo Absolute. C'est vraiment eux qui ont ramené cette touche-là. Et moi, personnellement, je trouve que Last Time Lover, ça me fait un peu penser au groupe TLC, qui a sorti justement leur album genre 2 ans avant. Des balades aussi, évidemment, qui rappellent un peu celles de Take That. Et même de la disco avec Who Do You Think You Are.
Ouais, quoi, carrément.
À noter que c'est un album qui a été composé avant l'arrivée de l'autotune. Donc, même si Victoria 1.
Oui, bah du coup, elle a pris parti de pas chanter.
Voilà.
Je suis désolée, hein, Victoria, si tu nous regardes.
Le peu qu'elle chante, elle a du mérite, il n'y avait pas d'autotune, voilà. Donc, les Spice Girls ont été pleinement impliquées dans l'écriture de toutes les chansons, et en particulier Jerry Halliwell. Elle arrivait aux sessions avec des notes qui produisaient souvent le point de départ en fait d'un texte, d'un titre, ou simplement aussi elle avait l'agenda en fait des filles du jour. En général, donc elle chantait une réplique et les autres s'en emparaient. Surtout Mel C et Emma qui elles allaient travailler du coup les mélodies dans leur coin.
Mais Jerry, c'était vraiment la leadeuse. Hein.
Tout à fait.
Quand tu regardes un peu des documentaires sur l'historique du groupe, c'est celle qui avait le plus d'ambition, qui voulait amener les filles le plus loin. Je pense qu'elle a été vraiment moteur dans...
Elles le reconnaissent d'ailleurs, les autres. Ouais. Elles lui reconnaissent ça.
Et puis on le sent, tu la vois à chaque fois en interview, celle qui parle la première, celle qui ouvre le plus grand.
C'est ça.
Ouais, vraiment.
Trop forte.
Et surtout, ce que je voulais terminer cette rubrique sur le fait qu'elles ont introduit une idée assez importante, c'est celle de l'identité d'auteur-compositeur. Donc c'est un concept familier dans les groupes de rock comme Queen ou Sex Pistols, où par exemple, si vous voyez les crédits, vous voyez que ça a été écrit, composé par Queen. Mmh. Et là, c'est pareil sur l'album, on voit que c'est écrit par les Spice Girls, et pas Jerry toute seule ou Mel B, etc. Et donc c'était assez nouveau dans ce monde-là des girls band, boys band, pop manufacturé, comme on dit. Donc dès le début, les Spice Girls ont reconnu leur solidarité en tant que groupe. Et en fait, c'est un partage de 50-50 entre elles et aussi entre elles et les compositeurs. Quand on connaît l'histoire du premier album, on ne peut nier le fait que les Spice Girls n'ont pas attendu leur succès, comme peut-être d'autres girls bands qui ont, à qui on a dit comment s'habiller, comment chanter, etc. Elles ont construit elles-mêmes et elles se sont battues pour l'obtenir. Voilà.
Bravo les girls.
Ah non, mais c'est clair. Pour des nanas qui n'étaient pas musiciennes, finalement, elles se sont improvisées, manageuses, à choisir les versions qu'elles voulaient.
Ouais,
elles ont vraiment bien taffé, quoi. Ouais. Elles se sont formées sur le tas. Alors clairement, les Spice Girls, elles ont été assez visionnaires sur le music business. Elles ont compris qu'elles gagneraient plus d'argent avec la marque Spice Girls qu'avec leur musique. Donc elles vendent une image et pas une voix. La marque Spice Girls, c'est un gage de positive attitude, de fun et de solidarité féminine, avec toujours un slogan, Girl Power. C'est un concept assez ambivalent, qui va être un peu vague pour certains, ou plutôt engagé pour d'autres. On va y revenir avec Pénélope Bagieux. Alors, on est ravis que tu sois là, Pénélope, parce que dans tes culottés, tu racontes la vie héroïque de femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Et qui font voler en éclats les préjugés. Alors, on va de Clémentine Delay, la femme à barbe, à Joséphine Baker, en passant par Nellie Bly, une des premières journalistes, et Betty Davis, une super chanteuse soul. Est-ce qu'on peut dire que les Spice Girls, elles aussi, sont culottées ?
Oui. Enfin, en même temps, c'est un peu un mot qui veut dire tout et rien. Mais elles sont culottées dans le sens où je pense qu'elles s'en sont vraiment pris plein la face à une époque, parce que c'était un groupe fabriqué où clairement elles avaient une image hyper marketée, mais voilà, elles ont quand même réussi à pas être juste instrumentalisées, visiblement par un business dans lequel elles ont pas juste servi à faire gagner de l'argent à des mecs, puisque c'est un peu toujours le problème de l'industrie du disque, c'est que elles ont réussi à quand même se approprier vachement un groupe qui à la base n'a pas vraiment été créé par elles, donc elles ont plutôt bien tiré leur épingle du jeu, et puis elles continuent elles tournent encore, quoi, quand même, ce qui est
elles ont réussi à durer carrément.
Ah oui, mais encore des tournées où les gens sont complètement hystériques à l'idée d'y aller,
Et puis effectivement elles se sont managées eux-mêmes, c'est quand même assez énorme.
Après c'était rare, enfin ça n'existait pas d'avoir des groupes de filles à l'époque. Moi j'étais pas une petite fille parce que j'étais un petit peu plus âgée, donc j'étais quand même une ado. Moi j'avais l'âge où c'était un peu la honte d'écouter les Spice Girls, j'étais trop vieille. Mais bon, j'avais des copines qui avaient des petites sœurs, donc on avait un prétexte pour quand même écouter. Et évidemment on était complètement fascinées par elles parce qu'elles avaient des super looks et qu'elles chantaient trop bien, etc. Mais du coup on était un peu trop vieille pour le message girl power, parce que du coup nous on le questionnait un peu. C'est-à-dire que c'était super de dire ouais les filles girl power, mais moi je me souviens aussi par exemple d'une couverture de Star Club, la chanson Star Club, avec une interview de Mel C où la citation qui était retenue en exact pour l'article c'était je ne suis rien sans mon Wonder Bra. Donc c'était quand même aussi des femmes qui envoyaient un message. Alors faut le remettre dans le contexte de l'époque, quoi. Aujourd'hui tu peux être une pop féministe qui dit des trucs hyper forts, tu peux être Beyoncé. À l'époque c'était déjà le bout du monde d'avoir cinq nanas. Donc voilà, elle faisait pas un sans faute, elle disait ça. Elle disait qu'une des premières figures du girl power, c'était Margaret Thatcher, quand même. Donc c'était...
Mais c'est assez terrible ce que tu dis, parce que moi, à l'inverse, qui avait quelques années de moins, je suis aussi passée complètement à côté du message de Girl Power, mais parce que j'étais trop petite et que pour moi, vraiment, ce que ça signifiait, c'était ah, j'adore avoir ma bande de copines et c'est trop cool de.
Mais je crois que c'était ça, avec le message qu'il fallait pas questionner.
T'es pas passée à côté.
T'es pas du tout passée à côté, je crois que c'était exactement.
Rassure-toi.
Bah, c'est-à-dire que le cœur de cible, c'était quand même plutôt des filles qui avaient ton âge.
Oui, bien.
Et du coup, c'était très bien. C'était un message qui était à prendre. Voilà. Pas plus loin que ça, je pense. Ouais. Parce que sinon, on se disait, mais attendez, Girl Power, mais du coup.
C'est-à-dire. Donc, mais qu'en pense Simone de Beauvoir ?
Mais oui, ça.
Girl Power, idéal jusqu'à 12 ans, quoi.
Ouais.
Ouais.
Voilà.
Mais c'est une très bonne base, en fait. Parce que, pour le coup, moi, quand j'étais petite, il n'y avait pas de groupe de filles.
Ouais.
Voilà. Donc, j'aurais préféré.
Alors, il y a bien sûr le slogan Girl Power qu'elles lancent dès qu'elles en ont l'occasion à chaque fois. J'ai retrouvé une archive de l'émission Nulle part ailleurs sur Canal+. C'est Philippe Vecchi qui leur pose la question. On l'écoute.
Big timed up with the word girl power.
Et puis
girl
de toute power. Façon, girl power.
Hey, voilà. Girl power. Ça, c'est un de vos mots d'ordre, girl power, c'est-à-dire un peu la revendication d'un pouvoir féminin.
Oui, oui.
Vous l'incarnez, mais qui d'autre à vos yeux l'incarne?
Et
qu'est-ce que c'est?
Mais écoutez, je crois que Girl Power, ça existe depuis longtemps. Il y avait Jeanne d'Arc, la Reine Victoria, Lady Di aussi. Beaucoup de mères seules ont le Girl Power aussi, cette puissance. Et puis il y a des gars qui ont ça aussi. C'est une forme de passion, d'énergie.
C'est simplement les gens, les hommes, les femmes, que tout le monde soit un peu plus égal et soit ensemble.
Oui, en gros, elle donne une définition du féminisme, mais sans faire peur, quoi.
Voilà,
ouais, c'est ça.
Les gens sont un peu plus égaux. Oui, ça s'appelle le féminisme.
Mais Girl Power, c'est très bien aussi. C'est pas grave.
À chaque fois, on parle de notions très, très larges quand même. On est sur le respect, on est sur l'égalité, on est sur quelque chose qui n'est pas de l'ordre du militantisme, j'ai l'impression. Mmh. On est quand même sur des valeurs qui sont assez édulcorées, non?
Oui, mais on parle à des filles de 9 ans.
Voilà.
Mmh. Donc c'est super de commencer. On ne va pas leur dire il faut que tu brûles le patriarcat. On leur dit.
Et ton soutif.
Et tu ne portes pas encore.
Non, on leur dit t'as vu, on est des copines. Et ce qui compte le plus, c'est la sororité et d'être toi-même. C'est une super étape.
Mais ça a vraiment fait son chemin, hein, parce que moi, c'était ma bande de copines de l'époque, c'était super important. Et je pense que c'est par identification aux Spice Girls, mais aussi parce qu'il y avait cette... On était les unes avec les autres et les unes contre les autres, parce que bon, on se cherchait toujours un petit peu des noises, mais il y avait quelque chose qui était créé un petit peu en regard des garçons, tu vois. C'était genre, on est là, on existe, et c'est peut-être les Spice Girls aussi qui nous ont inspiré ce truc-là par rapport à notre génération, je pense.
Ok, ben c'est hyper intéressant. Alors moi, j'étais dans le camp des garçons à l'époque. Mais en tout cas, je partage carrément ces valeurs. Si on questionne un petit peu le girl power, en fait, on se rend compte que c'est Kathleen Hanna qui est la pionnière punk du girl power. En fait, c'est la première à avoir utilisé ce terme au sein d'un groupe qui est mortel, qui s'appelle Bikini Kill. On va écouter un petit extrait et on en parle juste après. J'adore.
Trop bien.
Ouais.
Génial.
Alors voilà, on vient d'écouter un extrait de Rebel Girl qui est tiré de leur premier album, donc de Bikini Kill. Kathleen Hanna, à l'époque, était super proche de Kurt Cobain.
Mm-hmm. Kurt, il sortait avec une autre, avec la batteuse de Bikini Kill, Toby Vail. Et c'est grâce à L2 qu'est née la chanson Smells Like Teen Spirit.
Oh.
Parce que Toby Vail mettait du déo Teen Spirit.
Ah,
c'est une marque de déo.
Comme Kurt sentait avec elle, par extension, il sentait l'odeur du déo.
Ah, mais c'est pas du tout
sa
poétique alors comme truc.
Non, pas du tout.
Ah, bah super.
Et Kathleen a marqué sur la chambre. Sur le mur de la chambre de Kurt, un peu pour le chambrer. Kurt smells like Teen Spirit. Genre, Kurt, il a l'odeur de sa meuf. Et c'est né de là.
Merci.
Ouais, super, elle est bien.
Et Kathleen Hanna, était assez forte parce que dans ses concerts, elle exigeait que les spectatrices se mettent devant le public et les garçons derrière. En fait, elle lâchait au micro pour une fois les mecs derrière et elle poursuivait. Si quelqu'un vous emmerde pendant le concert, venez vous asseoir sur la scène et dites-le nous, parce que ça ne devrait pas être de la responsabilité d'une seule personne dans la foule d'avoir à gérer des connards.
Cool, voilà. Quelle femme. Elle aussi, elle retourne avec Bikini Kill en ce moment.
C'est vrai. Alors ouais, faut préciser qu'elle a monté le groupe Le Tigre.
Bah oui.
Un groupe génial, yes. Voilà. Et du coup là, elle retourne avec Bikini Kill.
Elle retourne avec Bikini Kill, ouais. Je suis sur Insta. Ouais. On espère qu'un jour elle retournera avec Le Tigre, mais ça, je pense que peut oublier. Mais
toi, ça t'évoque quoi, son parcours à elle et son message, ouais.
Et ben les Riot Girls en général, ouais. C'est peut-être plus ma génération d'ado à moi, c'est-à-dire que ça correspondait plus à l'âge que j'avais. Et alors là, pour le coup, vraiment, ça laissait sans voix, quoi. Quand elles s'écrivaient slut sur le ventre et qu'elles expliquaient pourquoi et qu'elles disaient il y a pas de raison qu'on se fasse objectifier, tant qu'à faire, on peut le faire soi-même. Et on a le droit d'avoir du contrôle même sur des choses comme ça. Moi, je sais pas quel âge j'avais. Enfin, j'avais peut-être 17 ans, un truc comme ça. Et puis c'était. Et après, c'est aussi ce qu'il y avait avec Hole et tout ça, tous ces groupes-là. C'était. Moi, ça m'a laissé vachement plus d'impact que les Spice Girls.
À chaque fois
qu'elle réapparaissait dans le paysage musical, c'était toujours avec un truc où tu disais putain, mais cette meuf, c'est fou. Elle est tellement sûre d'elle, tellement elle est
puissante,
elle est tellement puissante, ouais. Tellement cool. Après, en plus, j'ai appris qu'elle était avec Ad Rock. Alors je dis oh non, je t'ai plus. Trop cool jusqu'au bout des ongles. Vraiment, elle est toujours hyper activiste, elle est... Ah, Kathleen Nana. Je sais qu'on est là pour parler des Spice Girls.
Eh bien non, nous allons changer.
Mais cela dit, je suis aussi Jerry Halliwell sur Insta, et elle est aussi très cool. Et elle est toujours habillée en blanc, avec des cols roulés maintenant.
Oui, c'est vrai, elle a fait son retour.
Elle fait très châtelaine.
Et avec son petit chignon bas, et son enfant magnifique. Et voilà, c'est une autre façon de vieillir.
C'est Victoria qui l'a influencé.
Deux styles, deux époques. Et la version du girl power à la sauce Spice, en fait, c'est quoi du coup? On compare, c'est quoi? C'est du hard discount? Elles sont militantes ou pas, les Spice Girls?
En fait, peu importe le mot, il faut adapter son discours aux gens à qui on parle. Et voilà, encore une fois, si les Spice existaient aujourd'hui, elles pourraient se permettre d'aller beaucoup plus loin dans leur discours. Mmh, ouais. Elles refuseraient qu'on retouche leurs photos. Enfin, elles feraient des trucs comme ça, c'est sûr. À l'époque, déjà, elles pulvérisaient tellement de choses. Alors que maintenant, rétrospectivement, on se dit, ouais, enfin, c'était quand même... 5 nanas hyper minces qui étaient complètement dans les clous et tout ça, mais pour l'époque c'était juste des meufs déjà, c'était dingue, c'était pas les choristes d'un mec, enfin. Donc non, vu l'époque où elles étaient, je trouve qu'elles faisaient beaucoup quand même.
À travers la lucarne du 8 Machine, c'est une putain de révolution, quoi.
Ah bah...
Bah ouais. Parce qu'après, en plus, elles ont été copiées par quand même des tonnes de groupes. Mmh. Elles ont laissé derrière elles une traînée plus ou moins heureuse de groupes. Bon, les All Saints, c'était génial. Ouais.
Mais rien que... Moi, je dis les Destiny Child, complètement. Enfin, je veux dire, qui arrivent bien après, donc Beyoncé...
Ouais, puis qui était un groupe fabriqué aussi.
Bah oui, donc voilà. Carrément.
Non, mais après, t'as eu toutes les Atomic Kitten et tout ça.
Ah oui, non, mais c'est ouais, la poubelle.
Oh, t'as tout. Pas les Atomic Kitten.
Alors, il y a débat, attention, qui vote pour les Atomic Kitten.
C'est quand même des nanas qui ont inventé un modèle, quoi.
Bien sûr, ouais.
Hyper intéressant en tout cas de t'entendre parler des Spice Girls comme ça. On va maintenant s'intéresser à voir comment les girls ont construit leur image justement. Pour ça, elles explosent leur bilan carbone et traversent la planète en avion direction Tokyo. Nous sommes au printemps 1996, Fanny.
Ouais, on est le 21 mai exactement et elles ont rendez-vous avec Kunihiro Takuma qui, pour une séance photo, dont seront issues les images promotionnelles de l'album. Le photographe japonais les fait poser en groupe, puis individuellement devant des fonds de couleur pop. Ce sont des portraits hyper simples hein, qu'on peut d'ailleurs découvrir à l'intérieur du livret de l'album Spice. Et pour la pochette de l'album, le choix est aussi hyper sobre et hyper pop. On a un fond tout blanc. Dans le premier tiers en haut, on a le mot Spice écrit en grandes lettres stylisées rose, jaune, vert et rouge à bord argenté. Et il y a un portrait d'une fille dans chaque lettre. Sous le mot Spice, il y a le mot Girls écrit en petit en noir. Et dans le bas, à droite de la pochette, il y a un anneau doré avec le mot Spice Girls gravé à l'intérieur.
Cette bague, elle est le symbole qu'elles sont best friends forever. parce que pour la petite histoire, c'est Jerry qui leur a offert à chacune une bague en 95 en référence à leur motto
Friendship never ends.
Moi, je ne savais pas cette histoire de bague alors. Je suis passée complètement à côté du
c'est
truc.
Hyper mignon. Ouais. Non, mais en fait, quand j'ai vu cette bague sur la pochette, j'ai cherché pendant des heures.
Qu'est-ce que c'était?
Et impossible de
mais
trouver.
Mais moi, il fallait me demander. C'est vrai, tu savais. Je savais parce qu'en plus, à l'époque, avec mes copines, copine, on voulait acheter la même bague. Et je pense
sérieux
que, je te jure, on voulait faire la même chose que les Spice Girls.
Moi, j'avais le morceau de puzzle que tu mettais autour du cou, tu sais, la petite... avec ma meilleure copine, on avait ça. Il y avait une petite cerise sur chacun des morceaux de puzzle et on se l'était donné.
Je pense que c'est un truc que, tu sais, j'ai lu dans une interview dans Star Club, tu vois, je crois que...
ouais, mais à l'époque, je me rappelais plus. Et en fait, j'ai demandé sur Facebook à un groupe de fans hardcore...
Mais non.
C'est Jerry, elle avait fait tout le monde, tu vois. Mais ça m'a fait trop plaisir que ce soit des vrais fans qui me répondent là-dessus.
Bah, qui d'autre en même temps? Enfin, Lila. Ouais. Mais qui est une vraie fan?
Oui.
Bon, après, cette pochette, elle va pas révolutionner le design graphique des années 90, mais elle fait le job efficacement. Et elle deviendra suffisamment iconique pour que 21 ans plus tard, à l'heure de fêter la reformation du groupe et la sortie d'un best-of, les Spice Girls aient l'idée saugrenue de faire fabriquer rien de moins que la pochette la plus chère de l'histoire de la musique. Et vous savez comment elles sont arrivées?
Bah, tu vas nous le dire.
Eh ben, elles ont repris le fameux artwork initial de 96 et elles ont fait tailler chaque lettre du mot Spice dans des pierres précieuses.
Oh là là.
Le S en ambre, le P en rubis, le I en diamant, le C en saphir et le E en émeraude. Il y a un seul exemplaire de cet album, mais il a coûté la modeste somme de 2,5 millions d'euros.
Alors, est-ce que c'est punk ça?
Mais alors, mon petit doigt, trop pas. Et mon petit doigt me dit que c'est la poche qui s'est gardée cet exemplaire. Et alors, concernant les clips, revenons sur celui par lequel tout a commencé, le clip de Wannabe. Yo, il a été réalisé le 19 avril 1996 par Johan Kamitz, un vidéaste suédois connu à l'époque pour son travail dans la pub et qui signera en 1997 un autre clip iconique des 90s, le Save Tonight d'Eagle Eye Cherry. À l'époque, le concept de Kamitz pour le clip de Wannabe, c'est un plan séquence du groupe arrivant dans un immeuble exotique à Barcelone. Les filles auraient pris le contrôle des lieux avant de créer une émeute, mais quelques jours avant le tournage, catastrophe, on lui refuse son permis de tourner. Donc il relocalise l'affaire à Londres, au Midland Grand Hotel, dans le quartier de Saint-Pancras. Et la vidéo commence avec le générique où s'inscrit en rouge le nom des Spice Girls et le lieu. On a un intermède durant lequel on voit les cinq filles débouler en courant devant l'hôtel. Emma choure la casquette d'un clodo assis par terre et elle s'en sert pour faire la quête pendant que le groupe commence à chanter a cappella pour une famille d'aristos qui sort d'une Rolls. Ça commence très très fort.
J'adore.
Ensuite, elles entrent dans le hall en bousculant les portiers, elles font voler les feuilles de la guest list et boum, la chanson commence. C'est assez génial comme entrée en matière.
Ça avait fait un peu scandale cette histoire de casquette que Emma volait à un mec
jure
à son domicile.
Et donc la caméra suit les filles en plan séquence dans leur cheminement à travers des salles et couloirs. Elles vont draguer des jeunes mecs, emmerder les vieux et semer gentiment la zizanie à base de salto arrière sur la table du banquet. Elles finissent par s'échapper de l'hôtel en esquivant des flics qui avaient été appelés en renfort pour les maîtriser. Et je suis tombée sur un passage du livre Girl Power dans lequel Jerry partage son souvenir de tournage.
Je me rappelle du chaos et du froid. Rien n'était très contrôlé. On ne voulait pas que ça le soit. On voulait que la caméra capture la folie des Spice. J'avais de très grosses chaussures et je suis tombée plein de fois. J'ai revu le clip récemment et j'ai trouvé qu'on aurait vraiment dit une comédie. Toutes les autres filles m'ont décerné la palme de la plus barge dans ce clip. C'est notre vidéo la plus spontanée.
Et c'est ça qui est assez génial avec le clip de Wannabe. C'est l'énergie hyper communicative. Ça sourit, ça s'amuse et puis t'as une bande de jeunes anglaises normales en fait. Des vraies girls next door habillées en survette ou en top shop qui s'incrustent chez les Bourges. Et je trouve que ça parle à tout le monde. L'ambiance est hyper bonne enfant. Tu te dis pas que c'est des vandales. Tu te dis mais trop cool, trop drôle. Moi aussi j'ai envie d'être pote avec ces meufs. Alors évidemment, cette vidéo n'était pas du tout du goût des vieux briscards de chez Virgin. Oh là là, alors quand ils ont vu le clip pour la première fois, c'était plutôt en mode...
Non mais au secours, la lumière elle est trop sombre. Les filles sont hors de contrôle. Jerry est habillé en showgirl. Emma détrousse un SDF. Il y a des vieux partout dans le clip. Ça va faire fuir les chaînes de télé.
Mais il y avait un outrage encore pire, c'est qu'à cause du froid, on voyait les tétons de Mel B et Mel C pointés sous leur top, cachés ce sein que je ne saurais voir. Et donc la vidéo a fini même par être bannie dans certains coins d'Asie à cause de ça. Concernant Virgin, ils ont carrément essayé de faire tourner un nouveau clip à la place, mais les Spice ont refusé. Et elles ont eu raison, puisque dès sa sortie, la vidéo a eu tellement de succès que les gens appelaient par milliers la télé pour réclamer sa diffusion. Dans la foulée, elle va remporter plusieurs prix et nominations comme meilleure vidéo de l'année, notamment aux MTV Awards. Mmh. Et elle est régulièrement classée dans le top 10 des meilleures vidéos de tous les temps. Alors, on leur dit quoi aux puritains ? Free the nipple !
Free the nipple !
Free the nipple ! Et j'avais aussi envie de vous parler du second clip des Spice Girls, qui personnellement m'a beaucoup marqué quand j'étais petite. C'est celui de la chanson Say You'll Be There.
Et Manu surtout.
J'adorais le côté fantastique, science-fiction, avec des armes laser et tout. Alors il faut se rappeler que 96, c'est aussi l'année de la sortie de Mars Attack de Tim Burton, qui était alors un peu mon film préféré de l'univers. Alors flashback, on est début septembre 96 à 150 km de Los Angeles dans le désert de Mojave. Je vais la refaire. C'est un petit peu trop enthousiaste.
T'as tout donné là.
Alors nous sommes à 150 km de Los Angeles dans le désert de Mojave et plus exactement à un endroit du lac asséché de Coyote Dry Lake. Température extérieure, 40 degrés à l'ombre, ce qui ne rend pas la tâche facile aux maquilleurs qui doivent faire des retouches toutes les deux secondes car les Spice sont en train de se liquéfier dans leur costume d'Amazon en vinyle noir.
Oula.
Côté pitch, ça ne va pas chercher très loin. On est dans l'affirmation la plus complète du girl power avec des filles qui s'entraînent aux arts martiaux, au maniement d'armes en tout genre. Dès qu'un mec débarque dans le coin, bah, elle le chasse, le kidnappe et rigole. Et il y a un côté hyper fun et sexy qui emprunte beaucoup au film de série B et particulièrement à Faster, Pussycat, Kill Kill de Russ Meyer qui est la principale référence de ce clip. La grosse blague, c'est que le réalisateur Vaughan Arnell a eu des sueurs froides en découvrant les tenues sélectionnées pour les filles. Il raconte ça dans une interview au Sun.
C'était toutes des fringues SM achetées en sex shop. J'ai cru mourir. Laissez-moi vous dire que je me pissais grave dessus. J'ai pensé, mais comment on va réussir à leur faire enfiler ça ? Tout ce spandex et ce cuir, c'était du pur sex shop. Mais par miracle, le résultat n'a pas du tout été perçu comme ça.
Heureusement.
C'est pour ça, Manu, finalement, que tu te souviens très bien.
Oui,
voilà, c'est ça. Hein.
Alors, au contraire, le clip, il a complètement amplifié l'image de femme forte qu'elles avaient. Et moi, ça m'a permis aussi de m'interroger sur cette super mode qu'il y avait dans les années 90 de tourner des clips dans le désert.
C'est
il y avait plein de vidéos en mode Far West. Alors, je sais pas, tiens, genre California Love de Tupac et Dr. Dre, Give It Away des Red Hot Chili Peppers, Satisfy You de Puff Daddy, Frozen de Madonna, et je pourrais en citer encore plein d'autres. Donc, si quelqu'un a l'explication, moi, j'aimerais bien qu'on me dise qu'est-ce qu'ils allaient tous foutre dans le désert. Vous pouvez nous envoyer des DM, des tweets, démerdez-vous, moi je veux avoir la réponse.
Envoyer des SMS au 6-12-12 pour surtaxer.
En fait, c'est quand, 15 désert.
C'était un passage à Burning Man et après ils faisaient un clip derrière. Je sais.
Ouais, peut-être.
Merci Fanny. Je crois que maintenant on a bien fait le tour du sujet Spice Girls. On a parlé de la story, on a parlé de la tournée, de la prod de l'album, du girl power et même des aristos en Rolls dans le clip de Wannabe. On commence à être bien là. C'est l'heure maintenant de faire le bilan. Alors vous avez réécouté l'album pendant des heures pour préparer cette émission. Alors c'était comment ? On va commencer par toi Pénélope.
Alors moi je l'ai réécouté pendant des jours même.
Et des semaines.
En fait moi je me souvenais pas que la plupart de leurs singles étaient sur cet album là. Parce qu'en fait après elles ont fait des chansons qui étaient un peu...
Mais... C'est vrai.
Mais celle qui marche toujours bien maintenant en fait, c'est cet album là. Donc quand tu disais qu'on pouvait s'arrêter à cet album, c'est pas faux. Et aussi beaucoup d'oubliés hein, parce que l'autre moitié de l'album c'est quand même...
Ouais, c'est vrai.
Il y a des passages un peu longs quoi.
Ouais, c'était hyper bien calibré quoi. Il y a au moins 5 gros tubes qui ne prennent pas une ride. Non, je sais pas que c'est...
Ah complètement ça.
Toi Leïla, t'en penses quoi?
Oui, alors moi aussi j'ai réécouté pendant des jours, mais en fait c'est un album que je réécoute, il fait partie des albums que je réécoute régulièrement en fait, c'est vraiment un album qu'on peut écouter en plus du début jusqu'à la fin.
Enfin, non, moi, t'es une vraie fan quoi.
Non mais je trouve que cet album, il est positif et il met de bonne humeur, vraiment, et c'est vraiment un album qui t'envoie des ondes positives,
girl power.
Que tu peux mettre aussi dans une soirée karaoké, mais largement.
Ouais.
Et moi, j'ai toujours défendu cet album en disant, mais il a été super bien produit. C'est vraiment pas juste un album d'un girls band de base. Moi, je trouve que c'est un très bon album. Voilà, et qui est arrivé au bon moment, avec les bonnes paroles, avec les bonnes personnes. Et moi, franchement, j'aime quasiment toutes les chansons, même celles qui ne sont pas sorties, celles du groupe Absolute. Moi, je les aime bien. Voilà, je trouve que c'est les meilleures chansons de l'album.
Il y en a beaucoup qui ne sont pas sorties ?
Il y a la moitié. Enfin, bah, ah oui, déjà.
Tu parles de celles qui sont présentes sur l'album mais qui sont pas sorties en single.
Je
crois qu'il y en avait aussi qui étaient pas retenues sur l'album
au
final.
Bien sûr. Mais oui, non, mais voilà. Donc je conseille d'écouter cet album.
Bah écoute, voilà. Je suis totalement d'accord avec
toi. T'es d'accord avec moi, bah
voilà. J'étais même choquée à quel point cet album était meilleur que ce à quoi je m'attendais.
Ouais.
Parce qu'en fait, comme toi, j'avais lâché l'affaire assez rapidement dans les années 90 avec les Spice Girls. Je pense dès 97. Enfin, j'avais été voir le film Spice World.
Oh, ah oui, le film.
Et qui était une telle daube. Je pense après, on a été forcé d'arrêter avec les Spice. Et le deuxième album, déjà, je l'avais pas acheté.
Ouais.
Et donc je pense que j'ai arrêté d'écouter dès 97 et cet album j'étais jamais revenue dessus depuis. Et donc quand là on s'est dit qu'on allait faire l'émission, je me suis dit en fait ça va être la tannée d'écouter une dope pareille.
C'est vrai.
Et chaque nouvelle chanson je me disais quoi, mais en fait c'est vachement bien. Non seulement j'ai trouvé que c'était vachement bien, mais même vachement mieux que ce à quoi je m'attendais.
Vrai.
Et c'était beaucoup moins pop et édulcoré. Et même, enfin j'ai trouvé que c'était hyper soul, hyper R&B.
Mais il est sous-estimé cet album. Ouais, je pense. Non mais vraiment.
Bah, donc, un album très bonne surprise. À 7 millions d'exemplaires. Il est pas si.
Oui, mais pas dans une soirée, tu bois du vin, des cocktails, tu dis, hey, on se réécoute un peu les Spice.
Ouais, mais à la fois, c'est bien qu'à n'importe quelle soirée, quand tu mets les Spice
Girls, oh tout le monde se lève.
Bah, j'allais y venir, moi, encore samedi dernier, j'ai mis les Spice Girls, et là, ça a été. Toutes les filles étaient comme des folles. Quoi.
Oui.
C'était vraiment. Oh, c'est ma chanson.
Et toi, t'aimes toujours
Ouais, moi, j'aime toujours. Je suis toujours. Enfin, alors, je l'écoute un peu moins qu'avant, ça, c'est sûr, mais ça a toujours une grosse vague de nostalgie quand je l'écoute. Mais ça fonctionne à chaque fois. T'es en voiture, il y a Wannabe qui passe, t'es toujours emporté par vraiment ce truc super catchy.
Ouais.
Et puis, ben, franchement, moi, je me désespère de les voir se reformer une bonne fois pour toutes parce qu'elles nous ont fait
cinq,
la première fois. Oui, à 5. Elles nous ont fait le sketch pour les JO de Londres, j'étais comme une ouf devant ma télé, oui, je comprenais. Je regarde jamais les JO, mais là, j'ai regardé la cérémonie d'ouverture. Et à chaque fois, on nous fait des. Ah, on revient sur scène, mais sans Victoria, mais avec Victoria. Enfin, il y a plein de rumeurs qui courent. Moi, je suis à chaque fois, genre, oh, j'aimerais tellement les voir sur scène. Mais
ton cœur fait des bons à chaque fois.
À chaque fois, moi, je sens mon petit cœur d'adolescente qui est pressé et qui est vraiment. Qui tambourine dans ma poitrine. Mais voilà, c'est vraiment la grosse, grosse question. J'espère un jour pouvoir les voir avant qu'elles. Elles aient 70 ans, comme les Rolling Stones, je sais. Oui.
Et toi, Manu,
alors
c'est assez marrant de vous entendre faire entendre louange de Spice Girls, parce que pour le coup, c'était une.
C'était tannée.
Ouais, c'est une écoute qui était dure, tu vois. Je dis rarement ça sur un album dans Radio Cassette, mais là, pour le coup, j'avais plutôt un bon souvenir de l'époque, donc c'était mes émois, machin, je kiffais. Et je pense que les nanas, si elles n'avaient pas été aussi sexy, je pense que clairement, j'aurais jamais penché une oreille sur les Spice Girls. Et voilà, avec le temps, tu vois, j'ai réécouté l'album. Je trouve que, ouais, ce que tu disais sur la prod du disque, le fait qu'il y ait plein d'influences, que ce soit assez riche, ok. Le fait que les nanas, elles se soient comme ça, lancées dans l'aventure sans être musiciennes. Mais au final, je trouve que c'est assez mauvais, quoi. Je trouve que les arrangements ont vieilli, je trouve que tout est méga aseptisé. Bon, quand on parle un peu de G-Funk tout à l'heure façon Snoop Dogg, c'est quand même deux poids deux mesures, il y a une certaine influence.
Ça rappelle.
Voilà.
Tu vois un peu l'hôpital qui se fout de la charité, parce que tu bâches les Spice Girls alors, et t'as défendu Ace of Base. Quoi.
Je l'attendais.
Moi je dirais ça sur l'album d'Ace of Base, tu vois, ce que t'es en train de dire.
Ouais, je l'attendais, mais si tu veux, les Ace of Base, ils ont créé un style, ils ont créé un son, un truc. Après, t'aimes ou t'aimes pas. Voilà. Mais il y a un son qui leur appartient. Là, où les Spice Girls, je trouve qu'en fait, elles manquent terriblement de personnalité.
C'est pas
Bam
possible.
Je lance un pavé dans la main.
La sportive, la chic. Et elles n'ont pas de personnalité. Qu'est-ce que tu en racontes?
Si, elles en ont individuellement. De la même manière qu'en fait, sur l'album, t'as Wannabe qui a un petit accent punk rock. Oui. Franchement, t'écoutes. Hein, ce que fait le piano, c'est un riff de guitare. En fait, mais tous les morceaux de l'album, ils ont un petit rythme disco machin. Tu t'en as très bien parlé là tout à l'heure, mais
non, après, pour final... te défendre, je pense que t'as raison quelque part, parce que la preuve, c'est qu'en fait, il y a eu quoi, un deuxième album, et ensuite, je sais plus s'il y en a eu un troisième ou quoi, j'ai un doute.
Oui, je crois
qu'il y en a eu un troisième, mais qu'elles n'ont pas défendu en fait. Je crois qu'elles ont juste lancé le truc, un single et salut, elles se sont séparées. Mais en effet, là, il y avait pas assez de base musicale ou de personnalité, comme tu dis, pour faire une carrière en tant que groupe.
Et faut savoir aussi, pour comparer les deux premiers albums, sur le premier, en fait, elles ont mis 4 ans à le sortir.
Oui, bah oui.
Elles se sont mouillées, elles avaient un vrai message à faire passer. Quand le deuxième album sort, on est en plein dans la Space Mania. Oui. Il faut juste sortir un truc pour faire fonctionner toujours les tiroirs caisses, parce que c'est maintenant qu'il faut vendre du produit Spice Girls.
Spice Up Your Life.
Bah oui,
ça
ouais.
Exactement.
Ouais. Stop right now.
Non, mais Spice Up Your Life, elle était vachement bien.
Ouais, ouais. Non, mais sur le deuxième, il y avait quand même encore quelques titres cool. Hein.
Ouais.
Ouais, moi je me souviens d'avoir été hyper déçue en entendant le premier single Spice Up Your Life. J'étais là genre ok, pff, c'est fini.
Ah ouais, vraiment,
moi ça m'a
ah ouais, c'était ouais. Dingue.
Moi j'adorais.
Ouais. Espèce de...
Le clip était super.
Était dictateur avec plein de micros.
Ouais, ouais, un peu science-fiction et tout. Ouais, cool. Mais bah ouais, génération MTV.
Il faut des beaux clips. Hein.
Voilà, faut des clips. Mais moi j'étais vraiment déçue. Je me suis dit ok, ouais, c'est fini.
T'avais grandi aussi.
Trop triste.
C'est peut-être ça aussi. Ouais. Hein, j'écoutais d'autres choses et tout, mais ouais, c'est clairement, comme tu dis, il y a une différence entre les deux albums. Ouais.
Et voilà. Bah du coup, moi, les Spice Girls, finalement, j'en retiens plutôt des singles hein, en tant qu'album. Je suis pas tout à fait d'accord. Je retiens Wannabe hein, que je trouve toujours mortel. En vrai, moi aussi, je danse en soirée sur Wannabe. J'ai pas honte de le dire. Récemment, en plus, le morceau, il était sur la campagne pour l'égalité homme-femme où ils avaient repris le principe du clip appliqué à plein de femmes dans le monde, et c'était super beau et super bien fait. Ouais. À l'écoute, il y avait le morceau Mama que je connaissais pas j'étais vraiment passé complètement à côté. Je le trouve mignon. Voilà, il y a la chorale gospel. Pour le coup, je trouve que ça marche bien, les voix ensemble, les chorales, les acapellas, tout de suite ça envoie du bois. Voilà, on a fait un bon petit tour.
Ouais.
On avait envie de vous partager notre avis sur ce disque culte des années 90. Je tiens à remercier nos Spice invités. On avait Pénélope Bagieux, s'il vous plaît. Leïla de Mukashi Mukashi. Fanny. Et Olivia, qu'on ne présente plus non plus.
Bravo! Ouais.
Et voilà, sans oublier Béatrice, notre envoyée spéciale, qui a répondu à mes questions. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. On se tient au courant sur les internets. Nous avons un fan club sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous pouvez leur écrire.
Oh, pour écrire au fan club.
Carrément. Ouais. Non, c'est pas nous, c'est d'autres gens qui le gèrent à notre place.
On sous-traite.
Ouais. Et si vous aimez Radio Cassette, c'est bien. Mais si vous voulez nous soutenir, c'est mieux. Alors, comment on fait ? Eh ben, c'est tout simple. Vous partagez l'épisode à vos copains et vous lâchez un petit commentaire avec des étoiles sur Apple Podcasts. Ça nous ferait trop plaisir. Voilà. On se quitte maintenant avec Say You Be There. On vous fait un cœur avec les doigts et zig zig. Ah.
Gros bisous.
Bisous.
Bye bye. Bye. Come Eh ben merci.
C'est super. Marrant ce que tu disais sur le fait que c'est une base hyper punk, parce que moi j'avais un groupe quand j'étais en terminale.
Ouais.
Et on reprenait Wannabe.
Ah oui, ah,
trop bien. C'est vrai, en version punk.
Ouais.
Mortel. C'est sûr, tu veux pas.
Et les mecs de mon groupe, ils avaient trop l'impression d'être.